Bienvenue à tous pour cette table ronde consacrée à l'écriture biographique. Alors, je voudrais en tout premier lieu remercier la librairie Mola qui a accueilli favorablement ce projet pour donc cette réflexion autour de la biographie. Alors, depuis les années 1980, la biographie connaît un véritable engouement au niveau de la production et de la réception, en même temps qu'elle subit une transformation importante en s'ouvrant à d'autres disciplines comme l'histoire sociale et culturelle ou comme la psychanalyse. Alors, des vies exemplaires aux textes intimistes et herméneutiques qui caractérisent notre époque actuelle, la biographie donc apparaît comme un genre hybride, un genre mouvant, aussi complexe que séduisant. Donc, pour tâcher d'en savoir plus sur l'énigme biographique, j'ai demandé à trois biographes de confronter leurs expériences. Donc, autour de moi, trois grands hommes qui vont nous parler de trois autres grands hommes, Montaigne, Machiavel et Gide, trois personnalités littéraires et historiques réunies autour d'une passion commune, la liberté, liberté de penser et ou liberté de mœurs. Alors, des liens plus ténus pourraient être tissés entre Machiavel et Montaigne ou entre Montaigne et Gide qui partageaient la même conception anthropologique de l'universelle singularité. Donc, les trois grands hommes qui sont autour de moi, donc je les citerai par ordre alphabétique. D'abord, Philippe Dezan, qui est au centre, qui nous vient de l'Université de Chicago, excusez du peu. Il occupe une chaire d'histoire culturelle à l'Université de Chicago et il est, pendant 2 mois, professeur invité à l'Université de Bordeaux. Il est spécialiste des approches sociologiques et historiques de la littérature. Il a publié plusieurs ouvrages sur Montaigne, dont une biographie, Montaigne, une biographie politique, qu'il a publiée en 2014. Aux côtés de Philippe Dezan, Sandro Landi, qui est professeur d'histoire à l'université Bordeaux-Montaigne, directeur de l'école doctorale Montaigne-Humanité, spécialiste d'histoire de la culture politique de l'Italie moderne, auquel il a consacré donc de nombreux ouvrages, et en particulier, il a consacré une biographie intellectuelle à Machiavel, parue, je crois, en 2008 pour la première version, et en 2014, donc, en poche. Il est en train, si je ne me trompe pas, d'écrire encore un livre sur Machiavel. Et donc, mon troisième invité, et non des moindres, Franck Lestringan, qui nous vient de l'Université Paris-Sorbonne, grand spécialiste, grand sésiémiste, spécialiste des voyages français au Nouveau Monde, spécialiste aussi des guerres de religion, domaine auquel il a consacré de nombreux articles et de nombreux livres que je ne pourrai pas ici énumérer, puisque, comme je le dis souvent, il écrit plus vite que je ne lis, donc je ne pourrai pas énumérer sa bibliographie. Il est surtout là parce qu'il est l'auteur de deux biographies, mais deux biographies qui ne portent pas sur le XVIe siècle. Une première biographie sur Musset qu'il a publiée en 1999, et une immense biographie sur Gide publiée en 2 tomes en 2011 et 2012. Donc voici pour la présentation de nos biographes. Vous trouverez leurs ouvrages donc à l'entrée de la salle. Donc tous trois vont confronter leur méthode et leur conception de la biographie autour de quatre thèmes que je vous annonce donc par souci de clarté. Donc nous allons donc d'abord aborder une série de questions sur le biographe, sur leur expérience plus précisément de biographe. Ensuite, sur la méthode de la biographie, comment écrire une biographie. Un troisième axe portera plus précisément sur à quoi sert une biographie, en fait, pourquoi écrire une biographie. Et nous terminerons sur la réception de la biographie. Donc, première série de questions donc, concernant le biographe, plus précisément ses motivations, ses intentions, ses choix. Qu'est-ce qui motive le choix d'un auteur à l'heure d'écrire une biographie ? Que recherche en somme le biographe? Alors peut-être je commencerai par interroger Franck Lestringant. Alors pourquoi? Parce que précisément le 16e, le grand 16e qu'il est, ne s'est pas intéressé à un auteur du 16e siècle, mais à deux auteurs, un du 19e siècle, Musset, et un autre Gide. Alors pourquoi Musset et Gide quand on est 16e?
Ben parce que je n'ai pas été capable d'écrire des biographies d'auteurs du XVIe siècle. À la place du Musset, j'avais commencé une biographie d'Aubigné, d'Agrippa d'Aubigné, et puis je n'arrivais pas à écrire, j'étais bloqué, j'étais coincé. Alors j'ai changé de sujet et j'ai réussi à écrire le Musset. Et sur Gide, c'est pareil, j'ai commencé à écrire, j'en ai 200-300 pages, mais il faut les reprendre complètement, d'une biographie sur Montaigne. J'ai commencé à écrire une biographie sur Montaigne et puis je me suis découragé très vite, enfin au bout de 200 pages, et je suis passé à Gide. Alors évidemment, il n'y a pas beaucoup de rapport entre d'Aubigné et Musset, c'est assez incertain. Et puis entre Montaigne et Gide, alors entre Montaigne et Gide, il y a peut-être plus de rapport, hein, parce que Gide est un grand lecteur de Montaigne. Il se promenait avec les essais de Montaigne dans sa poche et il les lisait en Italie en particulier. Il a lu plusieurs fois les essais. Donc là, il y a un rapport tout à fait réel. Mais écrire une biographie, c'est assez difficile. Et il faut une sorte d'imprudence et d'impertinence. On ne peut pas écrire une biographie. Enfin, je ne peux pas écrire. Je ne peux pas. Il ne faut pas parler « on ». Il ne faut pas dire la généralité. Il faut dire « je parle en mon nom uniquement ». On ne peut pas écrire une biographie sans qu'on connaît trop bien. C'est difficile d'écrire sur un sujet où on sent le regard des collègues, des maîtres qui vous surveillent. Donc je suis passé sur des auteurs que je ne connaissais pas. J'avais aucune compétence sur Montaigne, sur Montaigne évidemment, mais sur Musset et sur Gide encore moins. Et bon, je l'ai vu, je l'ai vérifié à peu près au moment où le livre est sorti d'ailleurs.
Donc c'était un peu le hasard finalement.
Non, c'est pas le hasard. Alors c'est pas le ni dans un cas ni dans l'autre, c'est le hasard. Musset, c'est parti d'une expérience. Alors c'est peut-être le disque de Maria Cazares, l'enregistrement de la Nuit de mai de Gérard Philippe et Maria Cazares qui lisait, qui récitait la Nuit de mai. Et la Nuit de mai m'a toujours fasciné, et notamment par le caractère un peu à la fois dionysiaque et christique de ce poème, qui est tout à fait passionnant. Et je l'ai étudié d'abord en partant de l'Eucharistie, en partant de la dispute sur la présence réelle du corps et du sang. Et c'est ressuscité dans la fable du pélican christique, qui est une des parties de la Nuit de mai la plus connue. Et puis Gide, c'est le protestantisme, évidemment. Donc j'ai quitté le XVIe siècle, mais pas tout à fait, puisque je parlais de religion. J'ai parlé pas de guerre de religion, mais je parlais d'un problème religieux essentiel. Bon, je suis aussi moi-même d'origine protestante, donc ça m'a rapproché de Gide. Donc il y avait des ponts avec Gide. Et puis Gide est normand. J'ai découvert qu'il était normand. Donc c'était tout à fait une raison d'écrire sur lui, puisque moi-même, je suis normand aussi.
Alors, est-ce que Sandro ou Philippe, vous pouvez ajouter quelque chose dans ce choix, dans le choix de l'auteur, ou les motivations aussi? Ça va de pair?
Oui, un choix, c'est-à-dire que je ne me suis jamais imaginé écrire une biographie depuis 20 ans, 25 ans que je pratique Montaigne. J'ai une formation de sociologue, donc on est très loin de ce qu'on appelle le déterminisme psychologique. Très loin de l'homme et l'œuvre. C'est une des approches possibles de la biographie, de se dire qu'en comprenant la vie de l'homme, on peut comprendre l'œuvre. Bien sûr, mon approche est totalement à l'opposé de cette déclaration. Et donc, c'était un peu une sorte de gageur qui consistait à lire Montaigne différemment. Et au début, je voulais même écrire une biographie de Montaigne sans jamais citer les essais, sans jamais lire les essais, ce qui est impossible, bien évidemment. Mais c'était le but. Le but, c'était de recontextualiser Montaigne au maximum dans son époque et dans son temps, et de l'insérer à l'intérieur de clientèles ou de groupes, ou vraiment d'un milieu, de ce qu'on appellerait un habitus, à la Bourdieu un peu, et de voir comment fonctionnait véritablement un noble de moyenne noblesse au XVIe siècle à Bordeaux, dans son milieu, qui il côtoyait, comment ça fonctionnait, quelle stratégie de publication. Donc c'était cette démarche-là qui était finalement assez loin de l'approche habituelle de la biographie. Ce qui m'intéressait, c'était plutôt ce qui était autour de Montaigne que Montaigne lui-même. Donc Montaigne me faisait un peu peur. Les documents ne manquent pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Hein, donc ils abondent même sur Montaigne par rapport à Rabelais ou même à Shakespeare, où on a très peu de documentation. Ce n'est pas le cas de Montaigne. On a beaucoup de documents. On peut reconstituer, il y a 5-6 années, ce qu'on appelle les années perdues de Montaigne, où on ne sait pas grand-chose. Mais le reste, on sait beaucoup de choses. Et on sait encore plus de choses si, précisément, c'est ça qui m'intéressait, si on situe Montaigne dans des milieux sociaux ou des institutions comme effectivement le Parlement de Guyenne au XVIe siècle, ou la mairie, ou la Jurade de Bordeaux au XVIe siècle. Et là, on comprend un peu mieux le fonctionnement d'une époque à travers un personnage important de l'histoire littéraire, mais qui fut également un personnage important tout court, puisque Montaigne fut un homme politique des plus importants dans la région du sud-ouest de la France entre les années 1575 et 1590.
Donc, à vous entendre, on voit bien qu'il y a la volonté de donner une autre image, de réhistoriciser les essais.
Absolument. C'est pas un genre. Enfin, c'est toujours un genre, je peux le dire franchement, que j'ai profondément détesté, les biographies. J'ai lu très peu de biographies dans ma vie, précisément parce que c'était pas un genre qui me convenait, parce que le péché de beaucoup de ces biographies a tendance à démontrer que on arrive vers le génie de l'homme, finalement. Ouais, que le personnage est tellement génial. Et donc, on tombe un peu dans ce piège. On se concentre tellement sur une personne qu'on ne voit pas du tout ce qu'il y a autour. Donc moi, au contraire, j'ai essayé de normaliser le plus possible Montaigne, l'enlever de son piédestal. Alors, ça choque un peu les littéraires, il est vrai. L'enlever de son piédestal pour le rendre, et Montaigne aurait aimé ça, plus humain, pourrait-on dire.
Je crois que Sandro Landi est tout à fait d'accord et c'est un peu votre principe aussi.
Oui, moi aussi, donc je partage totalement. J'ai une formation d'historien de concept, d'histoire politique, et donc j'ai lu très peu de biographies. En fait, c'est pas un genre qui m'intéressait. En plus, donc c'est un genre minaire d'un point de vue historiographique, il faut le dire. Donc il y a très mauvaise réputation. Peut-être pas dans le monde anglo-saxon, mais donc en France, donc en Italie, donc c'est pas un genre. À part donc peut-être un micro-histoire, il faudrait voir donc comment en fait un micro-histoire donc à revisiter le genre donc, de la biographie. C'est très intéressant ce qu'on a fait de la biographie. Je pense à Menoch, donc à Ginsburg, donc tout ça. Donc je suis tombé par hasard, effectivement. Et ce n'est pas du tout scientifique. Hein. Au début, donc, moi, c'était l'idée plutôt de changer de genre d'écriture. Parce que donc, j'avais écrit des études de genre universitaire. Qui évidemment sont lus par une minorité d'individus. Et donc mon but, c'était d'abord de m'adresser à un public plus large, parce que j'étais, comment dire, assez écœuré par certaines biographies de Machiavel, et notamment par une biographie qui n'a pas été traduite. Je peux le dire peut-être ici. Non, peut-être on peut tout dire. Par une biographie qui n'a pas été traduite en France, je ne me trompe pas, c'est une biographie d'un élève de Skinner, de Maurizio Viroli, qui s'intitule « Machiavel is Smile », le sourire de Machiavel. Alors, c'est exactement la chose que je détestais, parce qu'en fait, je déteste cette façon de tutoyer un auteur, vous voyez, l'empathie qui s'instaure, cette empathie qui s'instaure donc entre le biographe et le biographé. Alors, comme si on le connaissait, c'est mon pote. C'est le genre de choses que je déteste hautement. Et donc voilà, j'écris une biographie de Machiavel et c'est pas une biographie qui a une prétention. Donc oui, bien sûr, il y a des notes en bas des pages, il y a une bibliographie assez nourrie, mais pour moi c'était voilà la tentative de vous voyez Machiavel, de le mettre à distance. De donner une consistance, donc de le prendre au sérieux, et surtout donc de faire une biographie qui n'est pas une biographie d'une idée, hein, donc style Skinner, donc on fait la biographie de l'idée républicaine, qu'est-ce que ça veut dire? Donc il faut voilà, démontrer les contradictions, notamment, les fractures qu'il y a aussi, donc dans sa linéarité, donc c'est quelqu'un qui n'est pas du tout, comment dire, cartésien, donc au sens, disons, péjoratif du terme. Voilà, c'est un peu ça. Je pense qu'il y a un enjeu, pour moi, qui était un enjeu du public. Et pour moi, cette biographie-là que j'ai faite, donc, c'était une biographie peut-être préparatoire, quelque chose qui peut-être voilà, qui va venir maintenant, mais je l'ai fait en italien parce que c'est ma langue. Alors, et je pense que c'est... voilà, ce que je suis en train de faire maintenant, c'est plutôt de voir un peu ce qu'on peut faire, donc, la biographie... Quels sont les enjeux heuristiques d'une biographie? Mais ça, c'est notre problème. Ça se situe pas dans le niveau, du public, de la biographie de Montaigne, des fils de sang, et de celle de Gite, donc, Philippe Destringhant. Mais c'est cette tentative de changer auprès d'un public large et cultivé une image, des stéréotypes, vous voyez, c'est un peu ça. Ce qui est aussi, donc, je pense, l'un des buts de notre profession.
Oui, oui. Donc, en tout cas, vous rejoignez pour cette volonté de donner
par une autre image. Par la détestation initiale de la biographie, voilà. Oui, je pense.
Au départ, et peut-être de faire autre chose de la biographie et de toucher peut-être notre public, parce que c'est peut-être finalement un genre par lequel on peut trouver un autre public.
Ça, c'est absolument. C'est le genre avec lequel on peut toucher un public large, je pense. Ouais. Et les historiens ont affaire souvent à ce type de problème, c'est-à-dire problème de communication scientifique. À quel type de public on s'adresse ? On sait bien que c'est un public minoritaire. Quelle est l'incidence ? Quel est l'impact de nos idées, souvent ? Eh bien, souvent, il faut passer par des outils d'écriture, des outils donc, qui sont effectivement d'ordre plus populaire, si vous voulez. Et la biographie, c'est un genre populaire par définition.
Donc, susceptible de toucher. Alors, puisque tu as abordé la question de l'empathie, hein, visiblement, et que François Dos, donc grand spécialiste de la biographie, parle, lui, d'impératif de l'empathie. Hein. C'est expression...
Oui, je l'ai lu, mais je l'avais oublié, oui.
L'impératif de l'empathie. Alors, justement, je voudrais vous interroger. Donc, toi, tu as déjà un petit peu répondu à la question, mais en même temps, je te cite, parce que toi, tu parles de garder à distance ton sujet, mais Machiavel, en respectant son altérité radicale, donc empathie, distance, risque d'identification. C'est un autre biographe célèbre, Claude Arnaud, je ne sais pas si le prénom c'est Claude, mais c'est Arnaud, qui parle aussi du risque de l'identification. Ouais. Où se situe le biographe ? Est-ce qu'il y a un risque, un danger ? Enfin, ou, quelles sont les limites ? Peut-être on peut revenir à Franck.
L'empathie, oui. On peut éprouver de la sympathie pour l'auteur que l'on...
Plutôt de la sympathie que de l'empathie.
Plutôt de la sympathie. Mais là, je veux... Il y a aussi l'inverse. Quand j'ai écrit le Musset, j'avais plutôt de la sympathie pour lui. Quand j'ai écrit le Gide, j'avais plutôt de l'antipathie. Il y avait des choses qui me révulsaient. Et donc, c'est une biographie compliquée parce que mon rapport à Gide n'est pas simple. Il y a ce rapport, notamment ce rapport sexuel, ces relations sexuelles qui sont souvent celles d'un pédéraste. Hein. C'est pas l'homosexualité qui est seulement en cause, c'est la pédérastie. Et sous ça, c'est un peu gênant. Et puis chez lui, il y a à la fois des côtés très séduisants, des côtés magnifiques, des côtés un caractère ludique. Mais il y a aussi un côté absolument abominable par moments. Donc, on est un peu obligé, quand on parle de Gide et quand on entre en relation avec lui, quand on fait sa biographie, on est obligé de se situer sur plusieurs plans à la fois et de faire dialoguer ces différents plans, de faire dialoguer ces différentes images. Ce n'est pas un homme singulier, c'est un homme plurisingulier. C'est une multitude de personnes en une seule. Et on peut donc détester certains aspects de lui, mais on peut en aimer d'autres simultanément. Et c'est la difficulté qu'il y a eu à écrire cette biographie, c'était le passage de l'un à l'autre, le passage de l'admiration éperdue pour certaines œuvres, à tout de même la détestation, ou du moins la gêne que me causaient d'autres aspects du personnage, et de traiter tout ça sur le même plan. Alors, il y a, non seulement chez Gide, il y a une duplicité, mais l'autre duplicité est pauvre à côté de ce qu'il est. C'est plutôt une multiplicité. C'était simultanément, il est bon, il est généreux, il a toutes les qualités, et puis il est le contraire aussi en même temps. Et quand il écrit, c'est la même chose. Prenez un texte comme la Symphonie pastorale, qui est un texte magnifique, et d'une densité, d'une brièveté extraordinaire. C'est un texte de même pas 100 pages. En folio, ça fait, dans la collection folio, ça fait 80 pages. Eh bien, ce texte, on peut le lire sérieusement, on peut le prendre à la lettre, et puis on peut le lire ironiquement, le contraire, et c'est pas plus faux que l'autre. Et moi, je l'ai lu plusieurs fois de suite, et à chaque fois, j'avais une vision différente et complètement paradoxale. Et on repose le livre, on a terminé, et on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire, ou qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce que le pasteur, finalement, en quoi reflète-t-il le pasteur qui tient le rôle principal. Donc, Gide présente un grand nombre de difficultés, mais c'est aussi le caractère passionnant du personnage, c'est-à-dire que une biographie de Gide, j'anticipe peut-être sur ce qu'il se dira après, mais on ne peut qu'essayer de la rendre totale. C'est pour ça qu'elle est grosse, ma biographie. C'est parce qu'il faut montrer tous ces caractères qui coexistent dans le même être. Hein, c'est toutes ces postures qui sont différentes et qui se chevauchent. Et dans la même phrase et dans le même propos qu'il tient, il peut dire deux choses opposées absolument. Donc c'est l'extrême difficulté que je n'ai pas rencontrée à ce point chez Musset. Alors il y a bien sûr des antithèses chez Musset. Il y a le débauché, et puis il y a le héros romantique. Il y a des aspects contradictoires, comme chez tout être, chez tout individu. Mais à ce point, chez Gide, cette multiplicité, je ne vais pas dire duplicité parce que c'est le réduire, c'est beaucoup trop le réduire, il est beaucoup plus intelligent que ça. Il est multiple et voilà.
Mais cette complexité, cette multiplicité, ça me fait penser forcément au devoir de complexité dont parle Sandro Landi dans sa biographie. Finalement, on est confronté souvent à des êtres complexes. En tout cas, c'est le cas de Gide, de Machiavel. Alors, Montaigne, je ne sais pas si l'expérience est la même. Mais en tout cas, pour Machiavel et Gide, vous parlez tous les deux d'un être insaisissable avec des zones d'ombre. Alors, peut-être que ça nous amène au deuxième axe de notre débat. Comment écrire une biographie? Comment justement écrire une biographie avec toute cette complexité à laquelle on a affaire, toute cette part d'ombre? Et je reprends là encore la formule de François Dos, hein, la vie reste un horizon, écrire une vie reste un horizon inaccessible. Alors comment faire? Qui veut répondre?
Dans le cas de Montaigne, pour brièvement revenir à l'empathie, ce n'est pas un problème qui se pose. Enfin, la période est vraiment très éloignée. Donc Montaigne vit avec un idéal nobiliaire qui nous échappe un peu. Donc on n'a pas vraiment à prendre position, dans la mesure où les positions défendues n'apportent pas grand-chose à notre modernité. Je crois que dans le cas de Montaigne, précisément, l'intérêt venait... C'est un des personnages très forts dans l'imaginaire français, sur lequel il persiste des mythes qui durent depuis le XIXe siècle. L'image d'un Montaigne retiré dans sa tour, qui est en train de jouer avec sa chatte, en pensant est-ce que c'est elle qui pense à moi ou est-ce que c'est moi qui pense à elle, et en train de s'interroger sur la condition humaine. Voilà, c'est un des mythes de Montaigne qui voit les guerres de religion, mais qui reste à l'écart. Et on a lu au XXe siècle, au XIXe siècle, ce Montaigne, véritablement un sage retiré dans sa tour. Alors que ce n'est pas du tout la réalité. Moi, ce qui m'intéressait de voir, c'est que Montaigne n'est pas très différent. C'est quelqu'un qui a les mêmes préoccupations que beaucoup de ses contemporains, qui fait de la politique au quotidien, qui est véritablement aussi dispersé, qui court plusieurs lièvres à la fois, qui a des carrières à poursuivre, qui n'écrit pas qu'un seul livre, contrairement au mythe de Montaigne, hein, donc, et qui écrit un livre sur 20 ans, qui est bourré de contradictions. Donc voilà, c'était un peu ces personnages caméléons à travers 20 ans d'écriture et 30 ans de carrière. On parle de la carrière de Montaigne. Montaigne, n'oubliez pas, était parlementaire, donc conseiller au Parlement de Bordeaux, maire de Bordeaux. Après, il a été conseiller de Henri IV. Il a été ambassadeur plénipotentiaire à Rome. Enfin, voilà, c'est un personnage d'une envergure politique importante qui écrit aussi des essais. Alors on s'est dit, oui, mais c'est l'être privé et l'être public, Montaigne le dit très tard, qu'il ne faut pas mélanger. Et notre modernité accorde, bien sûr, une valeur plus importante à l'être privé. Et c'est ce Montaigne privé qu'on a toujours mis systématiquement en avant. Donc c'était un peu de rétablir les essais dans un contexte plus public, véritablement. Donc cette idée d'empathie ne s'est pas posée. C'était plutôt une sorte, le mot en anglais qui convient bien, on appelle ça « debunking », c'est-à-dire déconstruire un mythe. Un peu déconstruire un mythe sur les récupérations de Montaigne à travers l'histoire, la façon dont le mythe a été, cette image d'Épinal que l'on a de Montaigne, c'était la démarche donc de cette biographie qui montrait un autre visage, multiples visages de Montaigne à l'intérieur d'un livre, mais qui se conçoit quand même comme un aperçu général. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus, sans, comme tu le disais, Franck, la complexité des personnages. Le problème des biographies, c'est qu'on part sur un axe qu'on poursuit. Et ça, c'est aussi le danger. Et donc, avec le calibre d'un Machiavel, d'un Gide ou d'un Montaigne, le danger, c'est... Alors, on ne peut pas tout couvrir, mais il faut donner l'image la plus complète. Et ça, c'est vraiment la difficulté majeure des biographies pour des personnages d'une telle complexité.
Moi, j'ai évité justement la linéarité parce que je ne crois pas. C'est-à-dire, alors, dans le cas de Machiavel, on a énormément de témoignages directs, indirects. Hein. Machiavel a écrit, en gros, 3 lettres par jour, donc pendant 15 ans. Donc, imaginez-vous la masse donc, de documents qui ont été en partie publiés, en partie non. Ce qui se passe dans le cas de Machiavel, c'est qu'il y a un usage constant de mêmes textes donc, autour de la même thématique. Il y a des questions qui sont héréditaires depuis donc, le XVIe siècle, depuis donc, Innocent Gentillet, n'est-ce pas ? Donc, il y a des questions qui se sont formées à cette époque-là, à l'époque des guerres de religion, si vous voulez. Donc. Et l'historiographie, en gros, l'historiographie du XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe, jusqu'à nos jours, s'est construite autour de ce clivage. Machiavel, conseiller du prince, Machiavel, citizen, le citizen Machiavel, non, donc Machiavel républicain, voilà. Quel est le vrai Machiavel ? J'en ai rien à faire de ces questions. C'est pas ça qui est intéressant. Moi, ce que je trouve intéressant chez Machiavel, c'est justement les zones, les apax, oui, les apax du texte. Les choses qui ne rentrent pas dans un vocabulaire normatif, à la Skinner. Par exemple, il y a plein de choses qui ne sont pas classables, qui viennent une seule fois. Qui vient une seule fois dans son œuvre. Pourquoi ? Quel est le sens ? Je suis attentif à l'anomalie, à l'anomalie des textes. Voyez, c'est ça qui m'intéresse. Plus que, comment vous dire, au côté trivial de sa biographie, c'est ça qui m'intéresse. Je pense qu'à travers ça, ce qui m'intéresse, c'est dire, je pense, alors je n'ai pas évidemment dans la biographie grand public, c'était pas ça le but. Ce qui m'intéresse, moi, c'est surtout, et là, je reviens à la question de l'empathie, c'est justement de saisir un dispositif. Mais je parle peut-être de façon technique, un mode de voir les choses, un dispositif cognitif qui n'est pas le nôtre. C'est-à-dire Machiavel, à son époque, a vu des choses, a donné des noms à des choses, à des phénomènes sociaux, je veux dire, hein, des phénomènes de société, d'accord ? Par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui l'opinion publique. Moi, je suis un spécialiste de l'opinion publique, d'accord ? Il a dit ça avec des noms qui nous échappent, mais il a aussi regardé ça avec des yeux qui ne sont pas les nôtres. Alors moi, je pense que, justement, c'est ça qu'on peut saisir à travers l'acte de la biographie. Saisir des dispositifs cognitifs, des manières de voir des choses qui nous échappent totalement parce qu'ils ont été occultés par le processus des modernités. Vous voyez ? Donc, c'est un mythe. Mais c'est justement dans l'empathie. C'est, disons, c'est un peu, comment vous dire, pour faire mon modèle, c'est plutôt un modèle anthropologique. Et je travaille un peu sur la distinction qui est faite par un anthropologue américain qui s'appelle Kenneth Pike et qui distingue deux niveaux, éthique et émique. Éthique, c'est le niveau donc, de l'observateur. Émique, c'est le langage de l'observé. Voilà. Et donc, l'observateur doit se saisir d'un langage qui est totalement différent du sien et ensuite le retraduire dans son propre langage et reformuler des questions, voyez, avec ce langage-là. C'est un processus, disons comme ça, d'aller et de retour. Donc, c'est ça qui m'intéresse spécialement. Donc, chez Machiavel, c'est sa différence. C'est sa manière donc, de saisir des choses, de phénomènes qui sont, ben oui, par exemple, la mort des civilisations. Alors, il y a des choses extraordinaires chez Machiavel. Au-delà de la vertu et de la fortune. On n'en peut plus de voir ces trucs-là. Ça suffit, la fortune. Donc, voilà, il y a des choses comme ça. Oui, donc, il y a des points de vue qui sont extrêmement pertinents. Je ne dis pas dans un sens d'actualisation. C'est vrai, peut-être qu'il ne peut pas nous aider pour dire ce qu'on est sommes aujourd'hui. Je ne pense pas que ce n'est pas le but. Il ne faut pas l'actualiser, justement. Il n'y a pas de serment d'Hippocrate chez les historiens, mais s'il y en avait un, le premier, c'est de respecter les morts. Et ça, c'est le premier aussi pour les biographes. Vous voyez, respecter les morts et saisir la voix des morts.
Mais alors, comment procèdes-tu concrètement, maintenant que tu nous as fait ce bel exposé, comment procèdes-tu en tant que biographe ?
Saisir la voix des morts. Mais les voix, c'est des morts vivants.
Oui, avec
C'est des morts vivants. Je pense que c'est... Non, je rigole, mais pas complètement. Moi, je pense qu'effectivement, si aux morts, on pose toujours les mêmes questions, il y en a marre à la fin. Et donc, ces morts-là, oui, le mort Machiavel, qui est un mort vivant... Ben, il y en a marre de poser toujours la même question sur la fortune, la vertu,
alors,
ou des choses comme ça. Eh bien, il faut poser des questions qui sont décalées. Il faut poser des questions qui sont politiquement incorrectes, des questions qui ne rentrent pas dans le champ des études machiavéliennes. Moi, je ne suis pas un machiavéliste. Au début, donc, moi, j'ai étudié donc, des choses totalement différentes. Vous voyez, j'y arrive comme un... Ben oui, parce que je n'appartiens pas à la même tribu. Vous savez comment ça fonctionne dans le système universitaire ? On pose des questions parce qu'on se fait reconnaître par ses pairs. Donc, il faut poser les bonnes questions. Eh bien, si on meurt, on pose des questions qui sont, disons, à côté... Eh bien, il y a des chances que le mort réponde avec d'autres réponses.
Oui. D'accord. Donc, il faut savoir que quand un bon biographe sait poser les bonnes questions.
Des bonnes questions, oui.
Voilà,
c'est ça mon but.
Il faut retenir ça de la méthode du biographe, poser les bonnes questions. Alors, quelques mots sur la méthode. Hein. Je vous ai posé, finalement, vous êtes revenu à l'empathie, mais je vous ai aussi posé une question. Finalement, comment fait-on pour essayer alors, d'embrasser, de donner le portrait le plus complet possible d'un être, d'une période, ou comment fait-on pour poser les bonnes questions? Alors, comment écrit-on une biographie? Comment, c'est la question que pose Sandro Landi dans sa biographie, comment écrire une biographie de Machiavel? Comment écrire une biographie? Ou comment ne pas l'écrire, hein? Alors, qu'est-ce que c'est finalement une biographie? C'est peut-être le moment de poser la question de ce qu'est une biographie intellectuelle aussi, finalement, historique ou littéraire, ou s'il y a peut-être, mais vous allez répondre à ma question, une différence aussi entre une biographie littéraire ou une biographie historique. Est-ce le récit d'une pensée? Est-ce alors le récit d'une époque dans laquelle a vécu un homme? Est-ce un récit anecdotique? Est-ce que l'anecdote est importante? Alors comment répondez-vous à ces questions? Peut-être d'abord Philippe.
Oui, non, moi je pars du principe, encore une fois, qu'on ne peut pas isoler Montaigne, non seulement de ce contexte, bon ça c'est une chose, mais de ses connaissances, de ses réseaux, donc de tout un système de production intellectuelle. Et donc, c'est le rapport de Montaigne aux autres, à son époque, qui m'intéresse. Par exemple, dans le cas de Montaigne, j'ai travaillé sur le Parlement, j'ai travaillé sur un logiciel qui m'a permis d'enregistrer 2300 noms de parlementaires, enfin de cas, et donc un peu toute l'intelligentsia bordelaise sur 20 années. Et après, de voir comment ça fonctionne, qui est avec qui, c'est un petit monde. C'est toujours un petit monde, mais c'est encore un plus petit monde. Et de voir comment ça fonctionne, dans quel milieu évolue Montaigne, comment existe-t-il, par qui est-il reconnu, qui est de l'autre côté, qui rejoint-il, et donc de comprendre le milieu de Montaigne. Montaigne n'existe pas isolé. Je crois que la tentation de la biographie, c'est de faire sortir un personnage pour le rendre unique et tellement supérieur aux autres qu'on peut passer les autres sous silence. Ou les autres deviennent anecdotiques, ils n'ont que des rencontres épiphénoménales. Alors que moi, je considère ces associations comme essentielles. Et donc, je ne perds jamais de vue, je n'ai jamais voulu perdre de vue, d'un Montaigne qui n'est jamais retiré de ses connaissances du milieu dans lequel il évolue, mais n'existe que par rapport à ces connaissances-là, en lui donnant un poids égal, une sorte de ce qu'on pourrait appeler à la Renaissance le troc pour troc, donnant-donnant. Donc, c'est un système échangiste au niveau économique, symbolique, mais que la construction d'un personnage se fait de cette façon. Bon, il faut relire un peu de Durkheim, hein, donc c'est la naissance de la sociologie qui s'échappe précisément de la psychologie en donnant plus d'importance aux réseaux, aux groupes, aux habitudes et aux institutions. Et qu'un personnage n'existe que dans ce qu'on appellerait aujourd'hui des coutumes sociales, des pratiques sociales qui sont bien implémentées et avec lesquelles il faut faire. Et donc même la création littéraire, se situe malgré tout toujours dans ces réseaux-là, même si elle est assez exceptionnelle. Montaigne invente un genre qui s'appelle les essais, personne d'autre ne l'a fait avant lui. Donc il crée un genre. Mais à quoi répond la création de ce genre par rapport à d'autres pratiques à son époque? Et c'est ça qui... Et là, pour moi, Montaigne devient intéressant parce qu'il offre une vision qui dépasse de loin, et on repart sur la biographie. Ça m'intéresse peu de savoir ce que mangeait Montaigne à midi, s'il buvait du vin blanc ou du vin rouge. Ça intéresse énormément les gens, généralement. Quand je fais des conférences en Asie, on me pose toujours ces questions. Mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Et par contre, de voir comment lui-même se positionne par rapport à certains problèmes, comment il conçoit ses éditions à partir de stratégies éditoriales, comment il conçoit l'écriture comme quelque chose qui peut lui rapporter quelque chose. Pas toujours. Alors, symbolique, bien sûr, pas toujours. Montaigne se publie à compte d'auteur, hein, donc il ne faut pas l'oublier. Il paye le papier de sa première édition. À la Renaissance, le coût du papier, c'est 60%, 70% du prix du livre. Donc Montaigne est un vanity press, on appelle ça en anglais. Hein. Montaigne à compte d'auteur. Mais à quoi correspondent ces publications? Donc voilà, donc c'est ces stratégies littéraire qui s'applique à un monde social, et on ne peut pas dissocier production littéraire, production artistique d'une situation sociale bien définie.
Donc là, on voit bien l'approche sociologique historique, d'où l'affirmation dans le titre « Montaigne, une biographie politique ».
Bien sûr.
Oui. C'était la distinction.
Oui, oui.
Alors Franck,
Oui.
Tu n'es peut-être pas tout à fait dans la même... Là, on a des historiens qui parlent.
Il y a des rapprochements, il y a des... Non, alors, écrire une biographie de Gide, c'est écrire une biographie de biographe, quoi. C'est quelqu'un qui s'est déjà autobiographé, qui a tenu un journal dès son adolescence et jusqu'à son âge avancé, jusqu'à sa mort, pratiquement. Donc, il a écrit sa biographie, son autobiographie, pendant quelques 70 ans. Et donc, voilà, il faut absolument tenir compte de cela. Et comment oser rivaliser avec lui ? Comment se situer par rapport à lui pour écrire autre chose que ce qu'il a dit, et autre chose qui ne soit pas absurde et qui ne soit pas absolument superflu ? Donc, c'est tout un problème qui se pose dans ce cas-là, par rapport au journal de Gide, qui est quand même sa grande œuvre, son grand œuvre. Il y a non seulement le journal de Gide, mais il y a les cahiers de la petite dame de Maria von Dresselberg, qu'elle a tenu pendant une cinquantaine d'années, dès la guerre de 14 jusqu'à la mort de Gide, pendant une quarantaine d'années. Et donc, on a des ensembles de textes, des textes qui sont déjà des biographies, finalement, des biographies saisies sur le vif au jour le jour. Alors, comment travailler ? Bien sûr, il ne s'agit pas de refaire, de répéter ce que Gide a si bien dit ou ce que Maria von Dresselberg a si bien dit, mais de prendre au travers de la biographie, de prélever. Alors, à la différence évidemment de Montaigne, pour lequel on a déjà beaucoup de documents, mais pour Gide, on en a une pléthore. Et la correspondance de Gide, c'est sans doute la plus riche correspondance d'écrivains de la littérature française. Enfin, c'est sans doute la plus... Il y a 30 000 lettres, 30 ou 35 000 lettres. C'est quelque chose d'innombrable. Et de partiellement publié seulement. Il y a des dizaines de volumes de biographies de Gide de publiés, mais ça ne comprend pas l'ensemble de l'œuvre. Donc, il reste à improviser, à tâtonner, ou bien à faire des sondages, à prélever des éléments, à isoler, à faire ressortir des détails qui, sinon, affleurent à peine. Par exemple, quand dans le journal de Gide, il y a aussi... C'est un écrit donc qui est fait au jour le jour, qui est écrit au jour le jour, pas tous les jours d'ailleurs, et par le moment, Gide dit crûment la vérité, et puis il passe à un autre sujet. Alors sur ses relations pédérastiques, par exemple avec Marc Allégret, il dit exactement, dans une phrase, on pense à une fiction, qu'il est en train d'imaginer une fiction, mais c'est la réalité, il est en train de séduire les enfants du pasteur Allégret, voilà. Il séduit les enfants du pasteur, et pour se moquer du pasteur et se moquer du protestantisme. Alors, il y a une phrase presque injurieuse, comme ça, qui est glissée, et c'est une des choses que Gide a fait, mais... il a aimé aussi Marc Allégret, évidemment. C'est pas seulement un viol, c'est pas seulement un acte scandaleux, c'est aussi un acte amoureux. Donc, il y a dans le journal des flèches comme ça, ça part dans un sens. Il y a des choses qu'il avoue, qu'il dit, et puis il passe à autre chose. Et alors, c'est très difficile de prélever ces éléments et puis de les faire rentrer dans d'autres associations, dans un autre ensemble qui dresse de Gide, non pas la figure qu'il a donnée ou qu'il a voulu donner, mais une autre figure possible, qui n'est pas la dernière figure. Ma biographie n'est certainement pas la dernière biographie de Gide. C'est l'une des premières, et c'est sûrement pas la dernière. Et il y en aura sans doute qui remettront en cause certaines hypothèses. Donc, on n'en a jamais fini avec un auteur comme ceci. Parce que il prête à tellement de conjectures, il est tellement ouvert, et écrire sur lui, ça n'est qu'une série d'hypothèses ou qu'une entrée. Et je n'ai pas lu tout ce que Gide a écrit, je n'ai pas lu toutes ses lettres. Voilà.
Donc tu es plutôt dans une approche linéaire de la biographie, contrairement
à... Oui, pour reprendre... Oui, et là, j'aurais évidemment... J'ai une petite divergence. C'est que j'ai suivi le fil chronologique, et il fallait suivre le fil chronologique, parce que c'était indispensable. C'est ça. Alors, dans le cas d'une biographie du XVIe, si j'avais écrit la biographie de Montaigne, que tu as si bien écrite, mais... peut-être qu'il y a des sauts. Il y a des passages à vide ou des manques, alors qu'on peut combler, qu'on peut essayer de combler ou imaginer de combler. On imagine, on n'écrit pas seulement ce qu'on sait, on écrit aussi ce qu'on croit savoir. Mais dans le cas de Gide, il faut essayer de tenir le fil chronologique le plus strict. Pourquoi ? Parce que ça donne souvent des surprises, hein, ça donne souvent des résultats. Alors j'ai dit que j'avais prélevé un certain nombre de choses sur l'ensemble du journal de Gide. Je l'ai lu évidemment intégralement, mais ça ne suffit pas de le lire. Il faut aussi voir ce qu'en pensent les témoins, le journal des témoins, le journal des proches, les correspondances qu'on lui écrit, pas seulement celles qu'il adressait, mais celles que ses amis ou que d'autres qui n'étaient pas ses amis pouvaient écrire, bien sûr. Et alors, on aperçoit des pans, il y a des pans entiers de l'homme et de l'œuvre qui apparaissent sous des couleurs évidemment très différentes. Et alors, le biographe doit essayer de mettre tout ça ensemble, mais minutieusement, et pour certaines personnes, au jour le jour. On voit déjà pour Montaigne, on peut le faire pour certaines, pour l'année 88 par exemple, hein, l'année de
l'embastillement.
De l'embastillement, oui. Et l'année de la publication, qui est aussi l'année de la publication des essais en trois livres. Mais pour Gide, c'est presque chaque jour, chaque année, chaque mois, chaque semaine qu'il faut reconstituer. Et ça donne parfois des choses tout à fait étonnantes, des rencontres, ou bien le même événement qui est vu par plusieurs écrivains, par plusieurs témoins, par Gide, par Martin Dugard, par Julien Green, qui étaient au même moment, au même endroit, et qu'on dit la même chose, qu'on vit la même chose.
Sur la chronologie, pour revenir brièvement à la chronologie, c'est un phénomène important qui était problématique pour moi avec Montaigne, bien entendu, parce que Montaigne écrit ses essais sur 20 ans. Donc il serait déjà un peu étrange de croire que quelqu'un possède les mêmes idées, c'est pas très différent au XVIe siècle qu'aujourd'hui. Donc 20 ans, donc il faut fonctionner sur ce que j'appelle la moyenne durée, qui sont plutôt des périodes qu'on réduit à des, qu'on met à plat, qui sont des espaces d'études, qui, dans le cas de Montaigne, correspondent, ça peut varier, hein, il y a une période parlementaire qui correspond à une quinzaine d'années, assez cohérente, avec des questions assez cohérentes, avec une problématique que l'on retrouve sur ces 10-15 années. Il y a des ruptures de carrière chez Montaigne, avec des périodes plus courtes. La période à la mairie représente une année, quatre années uniquement. Et là, vous avez aussi des problèmes totalement différents qui n'ont plus rien à voir avec les problèmes de parlementaire. De même qu'après 1588, quand Montaigne est là, véritablement malade dans son château, il a la maladie de la pierre et il ne peut plus voyager. Vous avez, donc voilà, ce sont des... La chronologie a été réduite, dans mon cas, avec Montaigne, à des moments qui peuvent aller de 2 années à 15 années, et où Montaigne se pose des questions totalement différentes sur sa propre écriture, sur son engagement politique, sur ce qu'il conçoit comme essentiel par rapport à son époque et sa postérité. Donc ça peut varier. Donc la chronologie est respectée, mais le poids n'est pas donné de façon identique à une année. Une année n'est pas vraiment une année.
Non.
C'est ça que j'essaye de dire.
Oui, non, je pense qu'il faut distinguer, évidemment, ce qui est la chronologie, donc, constitue un fil conducteur qui est essentiel, qui est incontournable donc, quand on écrit. Mais il faut distinguer entre une chronologie et une téléologie, je pense. C'est-à-dire, la tendance, effectivement, c'est celle de faire de la chronologie une téléologie.
Oui, hein?
Donc, il y a, bien sûr, donc, il y a une, on part avec une idée, donc, et on essaie, effectivement, de situer dans un axe chronologique toute une série des choses, n'était pas voir autre chose. Donc c'est ça, à mon avis, le risque majeur donc, des biographes, de faire d'une chronologie une téléologie.
Oui, hein.
Ça, je pense que c'est très difficile de l'éviter. Mais en même temps, alors, il y a, justement, à ce propos, il y avait un article très intéressant de Bourdieu qui dit la biographie, c'est le pire. Genre, la biographie n'existe pas. Vraiment, c'est très... Alors, il y a plusieurs possibilités. Je pense que, justement, ce qui est intéressant du bios... Hein, dans le graphos, c'est qu'effectivement, le bios, c'est-à-dire l'aspect biologique, nous ramène toujours à la complexité, et disons, au caractère irréductible hein, du bios, donc dans le telos. Il n'y a pas de telos dans le bios. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, à mon avis, donc, c'est ça échappe toujours. Et si on regarde, effectivement, si on prend un bribe de ce bios, d'accord, qui est vraiment très, très... Un détail. Moi, c'est Ginsburgien, donc je suis un élève de Ginsburg. Donc, pour moi, c'est ça. Donc, si on prend un détail, eh bien, donc, on voit bien la complexité de la chose. Et cette complexité est irréductible à une idée qu'on s'est faite, qu'on a construite pendant le temps. Voilà. Moi, je pense que c'est ça. Le pouvoir de la biographie, c'est ça. Justement, c'est de la capacité de remettre en question des idées reçues, les idées. Je suis dans le contexte historiographique, je parle, hein, donc dans le débat historiographique. Voilà. C'est parce que le bios est toujours plus fort.
Absolument.
Voilà. C'est déconstruire.
Totalement d'accord. Enfin, le problème principal dans les études montaignistes, c'est de considérer que tout conduit à la dernière version des essais. Oui. C'est l'aboutissement. C'est ce que les biographes avant ont appelé l'homme accompli. Oui. Montaigne devient l'homme accompli, le sage véritablement, et la première écriture est le début d'un cheminement vers l'homme accompli, donc cette approche téléologique où forcément le premier Montaigne annonce le second Montaigne qui annonce notre Montaigne.
Absolument.
Donc on a un peu des poupées russes et à la fin on a ce produit auquel nous tenons absolument, qui principalement tient aux marges de l'exemplaire de Bordeaux, où nous reconnaissons, et tout le reste serait un travail préparatoire.
Voilà.
Le vrai Montaigne émerge à la fin. Heureusement qu'il n'a pas vécu 10 ans de plus et qu'il est mort au bon moment. Sinon, nous aurions un personnage totalement différent.
Oui, c'est tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a cette tendance qui est ce mot qu'il faudrait interdire dans les études sérieuses, c'est le précurseur. Alors, précurseur, donc on est tous précurseurs de quelque chose. Mais Machiavel, par exemple, quand il était jeune, était précurseur de Machiavel quand il est âgé. D'accord ? Donc ça, le problème, on est toujours précurseur de quelque chose. Alors, Machiavel, quand il est donc, par exemple, secrétaire de la seconde chancellerie de la République florentine, qui fait du terrain au poids aujourd'hui, d'accord, il voyage et fait notamment du terrain, donc, parce qu'il a comme tâche celle de gouverner l'État de Florence pendant une période de guerre. Eh bien, donc, il est simplement le précurseur de Machiavel qui va écrire ensuite Le Prince et le Discours. Tout à fait, c'est ridicule. Donc, c'est une façon téléologique de voir les choses, c'est-à-dire quelque chose qui prépare. Alors qu'en fait, ce qu'on apprend du bios, c'est effectivement, on n'est pas le même homme à 20 ans ou à 50. On pense les mêmes choses différemment. Machiavel qui pense à la République florentine donc à l'âge de 35 ans n'est pas le même de celui qui pense à la République florentine à 57. D'accord ? Ça aussi c'est intéressant à prendre en compte, c'est d'ailleurs comment certaines thématiques qui sont transversales donc à une biographie changent pendant le temps. D'accord ? Moi je pense que ça c'est un élément aussi à prendre en compte. Comment il s'est contredit par exemple sur la même chose, hein ? Comment donc il réunit certaines idées ? Comment il trahit certains idéaux, voyez ? Certaines choses aussi. Il y a des allers-retours. Je pense qu'il y a ces aspects-là. Et ça, je pense que c'est effectivement... Ça, c'est l'un des ressorts majeurs de la biographie. Parce que justement, si on prend en sérieux le mort, comme je vous disais tout à l'heure, eh bien, le mort, donc, il est capable de vous remettre en question. Vous voyez, de remettre en question ces idées-là.
Le problème de la biographie, c'est effectivement, c'est de se projeter vers la construction d'un personnage dans notre modernité. Dans le cas de Montaigne, ce qui m'intéressait, c'est quand Montaigne publie ses premiers essais, il n'est absolument personne. Il n'a pas encore côtoyé les grands. Il publie un livre à compte d'auteur, 200 exemplaires, qu'il offre à ses copains. Ce n'est pas le truc assuré. Ce n'est pas le Montaigne que l'on connaît aujourd'hui. Et donc, il faut s'arrêter. Le biographe doit s'arrêter là, de voir cette première réception à ce moment-là. Le problème, c'est qu'on se projette sur notre Montaigne à nous. Ah oui, voilà, là, donc ça annonce celui qui va venir après. Et on peut dire des absurdités. J'ai vu des interprétations, notamment la rencontre des cannibales, où Montaigne devient noble après 1580. Montaigne aurait rencontré les cannibales en 1562 ou 1563. Mais il est impossible qu'il ait pu côtoyer le roi. Il était simple petit juriste au Parlement de Bordeaux, il n'a pas du tout la carrière qu'il va acquérir dans les années 1570. Et donc, il y a là-dessus, effectivement, des problèmes qui consistent à mettre les lunettes que nous avons de notre personnage et à lire tout le passé en fonction de ces lunettes. Et on va aller, le danger, c'est même d'aller chercher dans le passé ce qui correspond à notre image présente. Et d'ignorer tout le reste,
tout à fait.
Comme vous le remarquez. Mais il y a, dans l'écriture de Montaigne en 1580, des pistes qui ne seront plus utilisées après, qui sont très importantes.
C'est ça qui est
intéressant. Et c'est celle-là qu'il faut pousser, de voir ce qui n'est pas accompli, véritablement.
L'inachevé, oui.
Bon, je pense que vous avez parfaitement répondu à la question pourquoi vous écriviez une biographie. En fait, vous écrivez une biographie contre la biographie.
Oui, hein,
vous êtes les rebelles de la biographie. Donc, si je vous suis bien, donc, à quoi bon une biographie intellectuelle ? Vous avez répondu déjà à cette question. Alors, je vous la poserai peut-être un peu différemment. Les écrivains... Ont-ils, les écrivains ou les hommes, les personnalités politiques, ont-ils besoin d'un biographe ? Si on part du principe que la biographie ne peut pas aider, enfin, une vie ne peut pas aider à mieux comprendre une œuvre. Hein, c'est puisque pas de récit de pensée, puisque la vie ne peut pas aider. Alors, ou est-ce que la vie peut-être peut aider à comprendre une œuvre? Alors, peut-être que Franck aurait une autre.
Pourquoi perd-on son temps à écrire des biographies?
À quoi elle sert la biographie? C'est-à-dire, on a les œuvres. Alors, si j'écoute Philippe et Sandro, les œuvres ne suffisent pas. Mmh. Est-ce que dans le cas de Gide, est-ce que l'œuvre suffit? D'autant plus que l'œuvre parle aussi de.
C'est toujours pareil. Alors, l'œuvre, évidemment, se suffit. On peut s'arrêter à l'œuvre et la lire. Et la respecter, évidemment. Dire que l'œuvre ne suffit pas, ce serait... Je ne dis rien de tel dans ma biographie de Gide, évidemment. Et ma biographie ne se suffit pas, sans doute, c'est évident. Dans la biographie, c'est intéressant parce qu'on met non seulement une œuvre et une vie en relation, mais quand il s'agit de quelqu'un comme Gide... D'un homme du XXe siècle, du XIXe et du XXe siècle. On met cette vie et cette œuvre en relation avec d'autres vies, d'autres œuvres. C'est ça qui est intéressant. C'est que Gide n'est pas seul, évidemment. Il n'est pas seul à écrire. Il a toujours fait partie de cercles, d'écoles, ou même de... Il a eu des amis communistes. Il a longtemps côtoyé le communisme. Il a fréquenté les milieux communistes pendant 7 ou 8 ans au moins. Et puis ensuite, d'autres milieux. Donc un écrivain n'est pas seul. Et dans ce qu'il écrit et dans la part autobiographique de son œuvre, dans son journal par exemple, Gide témoigne de groupes, de milieux, d'assemblées. Alors, la biographie consiste à mettre la pensée de Gide en rapport avec la pensée de ses contemporains. La pensée de Martin Dugard, par exemple, qui est son ami, et qui le conseille, qui le surveille, qui regrette ses engagements, parfois. Gide et Cocteau, qui vont du symbolisme jusqu'au cinéma. Enfin, il commence par se connaître dans les milieux symbolistes d'avant-garde, au moment de la naissance du surréalisme, enfin des dadaïstes, et des surréalistes, et puis ils se retrouvent vers la fin de la vie de Gide. Gide et Cocteau deviennent très bons amis malgré leur rivalité antérieure, et c'est pour faire des films. Ils espèrent faire des films ensemble, et qu'ils ne vont pas faire finalement. Mais Gide demande le concours de Cocteau pour adapter certaines de ses œuvres au cinéma, et puis ça ne marchera pas. Mais on a un roman qui, longtemps entre eux, est régi par une rivalité et par une jalousie. Jalousie de Gide pour Cocteau, qui lui dispute Marc Allégret, et puis de Cocteau pour Gide, qui est assez déplaisant à l'égard de son confrère. Mais finalement, on arrive à une réunion. Alors, il y a toutes sortes de petits romans comme ça qu'on peut retracer dans cette carrière d'écrivain. Par exemple, Gide et Julien Green aussi, Gide et Martin Dugard, Gide et Cocteau, Gide et Marc Allégret, bien évidemment, hein, cette grande histoire d'amour qui commence en 1916 et qui dure 40 ans, près de 40 ans, hein, qui est très longue. Donc, finalement, on a une biographie qui éclate et qui entre à la rencontre d'autres biographies. Il y a une sorte de dialogue ou de polyphonie entre biographies d'écrivains de la même génération, de générations différentes. Le rapport de Gide et de Julien Green, par exemple, c'est tout à fait passionnant. Gide qui joue les pervertisseurs, qui essaye de jouer le pervertisseur à l'égard de Green, qui d'ailleurs n'a pas besoin de pervertisseur particulièrement. Il est déjà assez perverti comme ça. Mais voilà, il y a des jeux. La biographie permet de faire jouer. Et ça, cette biographie de Gide par rapport à l'autre que j'ai écrite, celle de Musset, c'était une manière de faire jouer l'œuvre ou un personnage, presque comme un acteur finalement au théâtre, les faire jouer par rapport à d'autres et voir ce que donne un écrivain en rapport avec d'autres écrivains, avec d'autres personnages.
Donc on est toujours dans...
Moi, je pense que le but de la biographie, c'est de comprendre une œuvre, évidemment. C'est-à-dire que le personnage Montaigne... autant intéressant qu'il peut être, il a disparu, le pauvre, et ma foi, peu importe. Ce qui nous reste, c'est son œuvre. Donc le but d'une biographie, c'est quand même de pouvoir comprendre une œuvre. Mais pas, c'est ce qu'on a essayé de dire, ce que j'ai essayé de dire également, pas selon les clichés habituels,
non.
Mais de considérer, par exemple, dans le cas des essais, une publication sur 20 années, totalement différente dans ce qu'on appelle la première édition de 1580. Là, vous avez un autre Montaigne, véritablement. Un Montaigne qui a des ambitions politiques d'un autre ordre, qui ne se conçoit même pas lui-même comme écrivain, comme on l'entend. Il le deviendra et il en prendra conscience après 1588. Vous avez un autre projet d'écriture qui est toujours là, puisque, comme vous savez, Montaigne ajoute mais ne supprime pas. Mais c'est quelque chose qui n'est pas mis en avant. Je raconte toujours cette histoire. Il y a une quinzaine d'années, j'ai mis mes étudiants à travailler sur un projet qui consistait à voir comment les universitaires citaient Montaigne aujourd'hui, selon les trois couches, vous savez, A, B, C. Et le Montaigne auquel nous tenons aujourd'hui, c'est véritablement le Montaigne des marges de l'exemplaire de Bordeaux, qui est le Montaigne écrivain. Mais ça ne représente, grosso modo, que 30% de l'écriture. Mais ça représente aujourd'hui 85% des citations de Montaigne par les universitaires. Donc vous avez un déséquilibre très intéressant. Quand vous donnez à des étudiants la première édition à lire des essais de 1580, vous avez un autre Montaigne complètement. Et donc c'est ça qui m'intéressait, de restituer un peu l'œuvre dans un contexte qui change, des variations énormes sur 20 années. Donc je crois que le but de la biographie, c'est de comprendre une œuvre, bien évidemment. Dans le cas de Montaigne, c'est compliqué par l'histoire éditoriale des essais, qui est assez complexe elle-même.
Sandro.
Alors, la question de l'œuvre est importante. Il y a un travail donc, d'un philosophe, ça s'appelle Lefort, dans le cas de Machiavel, donc c'est le travail de l'œuvre. Mm-hmm. Et la question, justement, c'est ça, effectivement. Telle est l'importance du nom, telle est l'importance donc, de l'œuvre, que l'on oublie effectivement souvent de la regarder, cette œuvre, hein, de la lire, parce qu'on n'a pas besoin. Telle est l'importance que l'œuvre porte sous le nom, que le nom voilà, occulte l'œuvre, en quelque sorte. Moi, je pense que le problème, quand on parle... Moi, j'ai du mal avec l'œuvre. J'ai du mal avec l'œuvre parce que l'œuvre est quelque chose d'accompli, justement, de poli, qui est achevé. Et moi, je pense que, justement, l'un des ressorts possibles de la biographie, c'est de montrer, ce qui m'intéresse au moins, moi, je suis très intéressé aux formes, comment on va dire, donc à saisir l'enquête plus que l'œuvre. L'enquête, la mise en enquête. Comment se construit une enquête à travers quelles sont les opportunités, quels sont les éléments biographiques qui font qu'un individu qui n'est pas fait pour ça, Machiavel n'est pas fait pour être un philosophe. Machiavel n'est pas un philosophe, et quoi qu'il en dise le philosophe, hein, d'accord. Ce n'est pas un intellectuel, Machiavel. Ce n'est pas Montaigne, d'accord. Machiavel ne lit pas le grec. C'est pas un humaniste, d'accord. Ça, il faut le dire. Il lit le latin, à peine, d'accord. C'est pas quelqu'un qui est programmé pour être un intellectuel. C'est pas programmé pour être un philosophe. Et pourtant, à un moment donc de circonstances qui sont totalement extérieures font que il se met à chercher des choses, d'accord. Moi, je pense qu'il est intéressant et qui est passionnant justement dans ce dispositif biographique, c'est de comprendre quelles sont les circonstances. Quelles sont les raisons qui font qu'à un moment, une enquête sur le monde, sur le réel, est possible. Et cette enquête, pour moi, je préfère le mot enquête au mot œuvre. Parce que dans une enquête, il y a plein de choses qui, justement, vont dans des directions qui ne sont pas ensuite, qui n'ont pas lieu à une œuvre, qui ne sont pas achevées. Ou simplement des choses qui sont totalement marginales, vous voyez. L'œuvre, c'est quelque chose de complexe. Et je. Oui, c'est quelque chose qui me gêne. En plus, oui. Je pense que justement, la biographie permet de déconstruire l'œuvre et de saisir donc l'acte génétique de quelque chose qui est un acte intellectuel. Vous voyez, comment saisir le monde qui est historicisable. On ne saisit pas le monde de la même manière au XVIe siècle qu'aujourd'hui. Vous voyez, et je pense que on a ça, on peut saisir ça, l'acte de naissance. De comment, voilà, on se met à la recherche de quelque chose. Et pour quelle raison, quand on n'est pas fait pour ça, vous voyez.
Bien, alors comme le temps passe, je vais vous poser une dernière petite série de questions. Messieurs les biographes, êtes-vous des lecteurs de biographies ?
Non.
La réponse est claire.
Sauf celle des collègues.
Oui, oui, oui.
Sauf celle des collègues, oui, on est obligé.
Vous êtes obligé. Alors, peut-être vous pourrez répondre à la question. Que peut chercher, puisqu'on parlait d'engouement de la biographie, hein, donc c'est un genre à succès. Pourquoi ce succès et qu'est-ce qui fait que recherche peut-être le lecteur dans la biographie ? Pourquoi ça fascine autant ?
Pas très noble, souvent.
Non, on est parti aussi d'une génération, enfin nous sommes d'une génération où la biographie était détestée. Enfin, oui, la cité oui. Bourdieu. Oui. Et c'est vrai que nous aussi, nous détestions les biographies. C'était.
Les sujets avaient disparu.
Voilà, nous étions des structuralistes.
Absolument, structuralistes.
Voilà.
Il n'y avait plus de.
Et nos premiers
écrits. C'était la mort de l'auteur.
C'était la mort.
Nos premiers écrits étaient les plus impénétrables. Enfin, évidemment.
Totalement.
Donc, c'est une sorte de. Ça paraît un peu comme un repentir, ou bien on est arrivé tardivement. Voilà.
Repenser
la biographie. Est-ce qu'on avait rejeté au départ? Oui, d'une certaine manière, oui.
Oui, je crois.
J'ai quand même invité de drôles de biographes, hein, vous en conviendrez.
Non, mais c'est un genre qui n'a pas...
Des lettres de noblesse.
Qui avait perdu ses lettres de noblesse. Oui. Il y a un travail intéressant qui est en train d'être fait, justement, de repenser la biographie. Les historiens y travaillent beaucoup, justement, pour voir en quoi on peut essayer de ne pas tomber prisonnier de ce danger de l'homme et l'œuvre. J'appelle ce déterminisme psychologique où tout se rapporte à une vie. Bien manger à midi explique que l'après-midi...
la sieste.
C'était un peu ça. Il fallait voir l'homme vivre pour comprendre son œuvre. Ça a disparu, pourrait-on dire. Mais il est vrai que c'est peut-être, je crois que c'est peut-être lié inconsciemment à cela, la nécessité de repenser le sujet, mais différemment, par rapport aux abus qui ont pu être faits.
Je pense qu'il y a derrière tout ça des interrogations historiographiques. La question de l'individu, la question du sujet. La naissance. Moi, j'aime pas la naissance du sujet, c'est aussi quand est-ce qu'il naît, c'est comme la modernité. Non, c'est très difficile à saisir. Je pense que... Moi, j'appartiens un peu à une génération dans laquelle, effectivement, avec Ginsburg, notamment, donc la micro-histoire, on a fait des biographies des gens qui n'étaient pas biographiables, comment on peut dire, qui n'étaient pas dignes de biographie, justement, de mineurs, des gens indignes de biographie. Donc, ce qui m'a attiré, justement, c'est ça. Si on a fait la biographie d'un Meunier, et donc de l'Académie Ménoc, pourquoi ne pas faire une biographie d'un grand homme avec la même méthode? Vous voyez, c'est un peu ça, l'idée.
Le fromage de Machiavel.
Le fromage de Machiavel. Machiavel et le fromage, voilà. Machiavel et the worms. Machiavel and the worms.
C'est l'heure de terminer cette table ronde. Je voudrais encore une fois remercier mes trois invités pour l'intérêt de leur réflexion. Hein. Et je voudrais aussi remercier donc le public attentif et encore une fois la librairie Mola. Voilà, merci beaucoup.